Voilà, grand bonjour, un grand merci, vraiment que Dieu vous bénisse. Avant de partager la parole de Dieu elle-même, comme je le fais souvent, je vous montre une actualité sur la Bible. Ça, c'est donc une Bible de Gutenberg que j'ai filmée à New York, mais vous savez que régulièrement, c'est-à-dire que je vous mets... vous savez qu'on est en train de traduire la Bible et ce papier, il est exposé là-bas, mais là, il est toujours un petit peu en retard. Là, il y a 796 Bibles entières qui sont traduites, mais en fait, vous voyez que là, il y en a 803. Hein? La dernière fois où je vous ai montré ça, il y en avait 801. Vous vous souvenez? Vous savez que de Bibles entières, voilà. Et ce qui représente 6,35 milliards de personnes qui ont la Bible entière dans leur langue. Le Nouveau Testament, 1837 traductions et 1516 ont au moins un livre entier, un évangile, l'épître aux Romains ou les psaumes. Voilà. Et je vous disais que une Bible ou un Nouveau Testament est achevé à un rythme d'environ un tous les 3 jours. Et voilà. Et vous savez que la Bible dit que cet évangile sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les ethnies, alors viendra la fin. Voilà, je vous mets ce petit schéma que j'ai l'habitude de faire aussi. Voilà. Et ça montre que tout simplement, l'évangile avance. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu. Bien sûr, durant ce temps de vacances, prenez du temps pour lire la parole de Dieu, pour dévorer la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, littéralement, d'après le livre de Josué, pour ruminer la parole de Dieu. D'accord? Je vous ai mis ce verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, littéralement, anthropos, l'être humain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et j'ai l'habitude de dire du pain complet, c'est-à-dire toute la Bible, hein? Pas nos passages préférés, et puis on ignore les autres. Voilà. Hein? Et puis, une autre annonce que je vous fais aussi. Alors, depuis quelques jours seulement, il y a une version révisée, la fameuse version Darby, qui est de très très loin la version la plus proche du Nouveau Testament. D'accord? Mais elle a été révisée. Et la version révisée est sortie depuis quelques jours. Josiane, voilà, elle ne l'a pas encore sur le stand. Et la librairie qui te fournit ne l'a pas encore. Hein, c'est ça, Josiane. Voilà. En tous les cas. Bien sûr, vous êtes habitué à lire certaines versions, aucun problème avec ça. Mais si vous ne lisez pas l'hébreu et si vous ne lisez pas couramment le grec, je vous encourage d'avoir à côté, comme une Bible de référence, une version Darby révisée qui viendra un jour sur le stand de Josiane. D'accord? OK, voilà. Alors, si j'avais un titre à donner à ce que je vais vous donner ce matin, c'est les 10 commandements. 10 commandements et un autel. Alors, mon but n'est pas de prêcher sur les 10 commandements, mais de faire simplement quelques remarques que j'ai eues sur le cœur pour vous ces derniers jours. D'accord? Voilà. Hein? Et puis, en même temps, je dirais ce que je vais dire va vous aider aussi peut-être à lire la Bible et puis à empoigner votre Bible et votre Ancien Testament. Hein? OK. Voilà, quand on parle de 10 commandements, on sait que le chiffre 10, ça marque l'ordre parfait dans l'œuvre de Dieu et dans les choses de Dieu. Avec une particularité, c'est la responsabilité de l'homme devant Dieu. Exemple, les 10 commandements. Dieu donne les 10 commandements, mais c'est nous qui les assumons, qui avons à les suivre. N'est-ce pas? Je vous ai mis d'autres exemples, les 10 plaies d'Égypte, 10 lépreux. Qui viennent trouver Jésus et il y en a, ils sont tous guéris, mais il n'y en a qu'un qui revient pour être sauvé. Les 10 vierges de l'évangile de Matthieu, etc., etc., etc. Sur les 10 commandements, il y a 4 commandements, les 4 premiers, qui concernent Dieu, qui concernent la personne de Dieu. Littéralement, le texte hébreu dit Yahvé Eloheka, c'est-à-dire l'Éternel, tes Dieux. Parce que tout l'Ancien Testament est comme ça. C'est-à-dire que la Trinité est là, le Dieu trinitaire, un Dieu pluriel. Hein? Donc, il y a 4 commandements qui concernent Dieu et 6 commandements qui concernent l'homme ou la relation de l'homme avec son prochain. Donc, le chiffre 4, ça parle de la création, des œuvres de Dieu en général. C'est le chiffre de la plénitude sur le plan terrestre. Par exemple, dans la Bible, vous avez, quatre saisons, quatre points cardinaux, vous avez quatre évangiles, vous avez les quatre rivières en Éden. Vous avez dans l'Apocalypse, par exemple, quatre anges qui sont... la Terre est ronde aux quatre coins de la Terre, on va dire comme ça, voilà. Hein, voilà. Et puis, il y a les six commandements qui concernent l'homme et la relation de l'homme avec son prochain. Le chiffre 6 dans la Bible, c'est toujours le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'humain, de tout ce qui concerne l'être humain, avec ses bonnes choses, mais aussi avec ses limites, et puis avec ses imperfections. C'est le chiffre qui parle de l'humanisme, de la puissance de l'homme, mais aussi de l'élévation et de la glorification de l'homme, de l'élévation de l'humain. Or, je vous ai mis quelques exemples là. Adam est créé, par exemple, le sixième jour. Hein, voilà. L'homme est censé travailler six jours. Le septième jour est réservé normalement pour Dieu. Pour monter sur le trône de Salomon, il y avait six marches, parce que c'est humain. C'est un roi humain. Il n'y avait pas sept marches. Hein. Donc, les six commandements vis-à-vis de l'homme, les villes refuges dans le livre de Josué, où les hommes qui étaient censés être des repris de justice, pouvaient venir se réfugier, eh bien, il y en avait six. Qu'est-ce que je vous ai mis encore? Ah oui, les six vases à Cana, les six branches du chandelier. Le chandelier, c'est une œuvre parfaite. Il y a sept branches, en fait. Il y a un pilier central, et en fait, il y a un pilier central et six branches, trois et trois, ça fait sept, mais six, ça montre que ça symbolise l'Église. En fait, hein. Et puis, je vous ai mis aussi le chiffre 666, c'est 3 fois 6. C'est-à-dire, c'est l'homme qui veut régner et se faire comme Dieu. Il veut se faire comme Dieu. Voilà, c'est un nombre d'hommes dans l'Apocalypse. Alors, c'est très important, ça, parce que ça veut dire que, d'abord, dans ma vie, je dois prendre soin d'une chose, c'est les quatre premiers commandements avec Dieu. Et puis ensuite, je m'occupe des six commandements vis-à-vis de mon prochain. C'est très important, ça. Parfois, en tant que chrétien, on veut bien faire et on veut tellement bien faire qu'on est focalisé sur notre relation avec le prochain. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, ma relation avec Dieu. D'abord, ce que je vis avec Dieu. Je suis d'abord en relation avec Dieu, émerveillé par Dieu, ébloui par Dieu. Je respecte les choses de Dieu, le caractère de Dieu. Et puis après, je suis plus fort pour m'occuper de moi-même et pour m'occuper des autres. Hein? Voilà. Le grand message laissé, c'est celui-ci, comme je le dis très souvent. Toute ma vie, tout mon caractère, toutes mes façons de faire, toutes mes attitudes, toutes mes relations avec mon prochain vont dépendre de la relation que j'entretiens avec Dieu. Je dois d'abord soigner ma relation avec Dieu pour ensuite avoir la capacité de vaincre le péché. Lorsqu'il y a quelque chose dans la vie de quelqu'un ou dans ma vie, quelque chose qui ne va pas par rapport aux six commandements. Hein? Par exemple, tu ne mentiras pas, hein? etc. Enfin, les six commandements, tu ne convoiteras pas, etc. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans les six commandements, en tant que travail pastoral, la première chose qu'il faut essayer de faire avec la personne qui vient vous consulter, c'est pas s'occuper des problèmes avec les six commandements. Occupez-vous toujours, toujours, toujours dans le travail pastoral, et je dis ça aux serviteurs de groupe de maison, occupez-vous toujours, toujours, toujours des quatre premiers commandements. Et en creusant, vous verrez vite où en est la personne par rapport à Dieu. S'il ne s'agit que d'un vernis religieux, des incompréhensions par rapport à Dieu, la personne est parfois beaucoup plus loin de Dieu que ce qu'elle dit et de ce qu'elle affirme. On traite d'abord la relation avec Dieu. Jésus résume très bien ces quatre commandements par rapport à Dieu par ce qu'il appelle le premier commandement en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », littéralement, l'hébreu dit, parce que là, il cite le livre de Deutéronome quand il dit ça. En fait, le Deutéronome dit littéralement l'Éternel, Yahweh, Eloheka, tes dieux. C'est toujours un pluriel. Hein? D'accord ? Donc, tu aimeras, et Jésus lui-même prêchait en hébreu, en araméen, voilà. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ensuite, Jésus résume ce qu'il appelle le deuxième commandement. Donc, il résume les six commandements qui concernent l'homme en citant ce qu'il appelle donc le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En disant cela, d'ailleurs, il cite l'Ancien Testament. Il cite, je vous l'ai mis, je crois, oui, Lévitique 19, voilà. OK. Là aussi, le message est clair. Je ne peux pas être dans la paix intérieure avec moi-même. Je ne peux pas m'aimer moi-même. Je ne peux pas aimer les autres comme moi-même si je ne suis pas d'abord dans une vraie relation intérieure, entretenue, vivante, reposée, détendue, joyeuse et émerveillée envers Dieu. Donc, c'est toujours les quatre premiers commandements qu'il faut traiter. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de développer une religiosité pour me donner bonne conscience. Comme je disais tout à l'heure, un vernis religieux, une conscience lourde, malmenée, écrasée, attristée, inquiète, au lieu d'une relation vivante avec Dieu. Bien sûr, traiter d'abord les quatre premiers commandements. Mais il s'agit d'une confiance, d'avoir une confiance vivante, joyeuse, reposée et détendue, une attitude émerveillée devant un Dieu qui est majestueux, qui est magnifique, qui est époustouflant, et un Dieu rempli d'amour, la Bible nous dit, de joie et de puissance. Je vous ai mis cette réflexion. Donc, un chrétien qui a une vraie foi est censé être émerveillé par un Dieu étonnant et glorieux. La Bible nous dit, Sophonie 3:17, on connaît bien ce passage, un Dieu étonnant et glorieux qui bondit et danse de joie en pensant à moi. Il y a des gens parfois qui sont choqués quand ils voient dans des églises des gens qui dansent dans les églises. Quand on fait ça parce qu'on aime Dieu, tout ça. Puis en fait, on fait ça aussi parce qu'on imite Dieu. La Bible nous dit que Dieu danse et bondit de joie dans le ciel. Alors ça, je suis pressé d'aller au ciel pour voir ça. Hein. Et en plus, il le fait en pensant à moi, à toi. Quand même, hein. Quand même. Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. D'accord. Et on voit que Jésus, il sautait, il tressaillait de joie. On le voit dans Luc 10. Voilà. Dans le livre de l'Exode, on revient au livre de l'Exode, donc dans les 10 commandements, le second commandement nous demande, nous ordonne même de ne faire, on connaît cela, aucune image, aucune ressemblance, aucune statue pour se prosterner devant elle ou simplement pour s'incliner devant elle. Dieu dit, tu ne les serviras pas. Le terme hébreu, littéralement, c'est servir et avoir une attitude d'adulation ou une attitude d'adoration. OK? Voilà. On ne s'incline, on ne prie, on accorde un service religieux, un service cultuel qu'à Dieu seul. Le Dieu trinitaire, Père, Christ, Saint-Esprit, ça fait déjà pas mal de monde. Hein? Souvenez-vous, l'éternel, tes dieux, Yahweh, Eloheka. Ça va, vous suivez? Voilà. OK. Sinon, bien sûr, nous plongeons dans ce que la Bible appelle de l'idolâtrie. Nous voyons ça dans Apocalypse 21, dans 1 Corinthiens 6, je vous ai mis les références. Nous plongeons dans l'idolâtrie et la Bible est claire. Aucun idolâtre ne verra le royaume de Dieu. On ne s'incline devant personne d'autre que Dieu. On ne prie personne d'autre que Dieu. Certainement pas Marie et certainement pas les morts. D'accord ? On est clair là-dessus. Si vous êtes habitué à lire l'évangile, il n'y a pas de problème. On ne s'incline pas devant des reliques de prétendus saints. J'en profite pour dire que dans les églises catholiques, chaque autel contient normalement des reliques d'un prétendu saint. Et en faisant une génuflexion, quand vous rentrez dans une église ou devant l'autel, les gens qui font une génuflexion font un acte cultuel de soumission, d'adulation, d'adoration devant cette relique. Voilà. On a l'habitude, quand les gens se font baptiser chez nous, on prie toujours pour que les gens soient délivrés par rapport à ça. Parce qu'il y a toujours des restes spirituels par rapport à ces choses-là. Hein. Donc, pas d'acte religieux devant des reliques, devant un autel, devant une hostie, bien sûr, devant un crucifix, devant une médaille, devant une icône ou un tableau d'un prétendu saint ou une photo d'une idole disproportionnée. Parce que parfois, il y a des gens, entre aimer quelqu'un et puis en faire une idole, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Voilà, OK. Tout cela, la Bible dit que cela provoque des malédictions sur des générations et nécessite de véritables délivrances démoniaques. Dieu, en marchant avec lui, en marchant avec Dieu tout simplement, eh bien, la Bible dit que nous allons entasser des bénédictions sur des milliers de générations. Milliers de générations, c'est toute l'histoire de la Terre. Hein. Quand quelqu'un marche avec Dieu, vous empilez les bénédictions pour des milliers de générations. OK ? Voilà. Un petit mot sur... on ne va pas les faire les 10 comme ça, je vous rassure. Sur le troisième commandement, et j'ai beaucoup été touché ces derniers temps par ce commandement. On le connaît bien, je vous l'ai mis d'ailleurs tel qu'il est. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, littéralement tes dieux, Eloheka, en vain. Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Il y a une traduction d'ailleurs qui dit qu'il aura pris son nom en mentant, mais on va dire en vain, voilà. Bien sûr, cela concerne de nombreux domaines, comme la droiture et l'honnêteté, lorsque l'on parle des dieux, sans exagération, par exemple dans l'évangélisation ou dans le témoignage chrétien, ou la gestion des paroles prophétiques. Vous savez, le fameux « Dieu m'a dit ». Oui, Dieu t'a dit, mais si t'as vraiment dit. Sinon, si tu dis que Dieu t'a dit et que Dieu t'a pas dit, tu prends le nom de Dieu en vain. Hein? Et j'aimerais ici dire quelque chose qui, en tant que pasteur, m'affecte et m'attriste beaucoup. Je vous le dis parce qu'il y a des choses parfois qui m'affligent, c'est comme ça. Des gens peuvent venir nous voir avec parfois des vies très décalées par rapport à ce que Dieu demande. Et en fait, les personnes, elles savent même que c'est décalé. Voilà. Hein? Elles entretiennent des habitudes qui savent être en complet désaccord avec la volonté de Dieu. Par exemple, des situations de fornication. J'ai des relations sexuelles avec quelqu'un en dehors du cadre du mariage. La Bible est claire là-dessus. Hein? Voilà. Bon, des situations d'adultère. Une homosexualité entretenue. Et parfois carrément prêchée. Des avortements à répétition. Vous avez maintenant l'euthanasie. Vous savez que maintenant, il suffirait d'une seule notation d'un médecin, même pas votre médecin traitant, pour demander d'euthanasier quelqu'un. Hein? Alors, je vous encourage encore à prier pour ça, parce que le Conseil constitutionnel est censé être interpellé pour que ce soit refusé, même si c'est passé par les députés. Hein? D'accord ? Donc, priez encore là-dessus. En tous les cas, on vit dans un pays païen, quoi, c'est clair. Hein? Bon, une volonté entretenue pour le divorce, des actes évidents d'idolâtrie, comme des prières à Marie ou des prières aux morts. Voilà. Alors, bien sûr, je comprends ces gens et j'ai de la compassion pour des gens qui vivent dans des choses comme ça. Je sais qu'ils sont en décalage par rapport à ce que Dieu veut. Mais là où je suis affligé, c'est quand la personne me dit... Voilà, monsieur le pasteur, si vous saviez, on me l'a dit encore, je me souviens d'une dame, il y a quelque temps de ça, qui me disait, si vous saviez, monsieur le pasteur, j'aime Dieu. Si vous savez comme j'aime Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'aime Dieu. Et tous les matins, je prends du temps avec Dieu, je prie Dieu et je lis ma Bible. Alors, cette dame qui n'est pas dans l'église d'ailleurs, que vous ne voyez pas dans les cultes, mais je l'ai prise dans mes mains, et je lui ai dit ce que je pensais. Lorsque quelqu'un vit dans une situation complètement décalée par rapport à Dieu et croit entretenir une vie religieuse, en fait, ça, ce n'est pas la foi. La Bible dit, par exemple, qu'aucun fornicateur ne verra le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. C'est un vernis religieux. C'est un masque religieux. Mais certainement pas une vraie relation avec Dieu. C'est vraiment prendre le nom de Dieu en vain. Et ça, Dieu ne passe pas là-dessus. Il le dit d'ailleurs. Hein, voilà, je vous ai mis que Dieu ne prendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. On est là, bien sûr, loin d'aimer Dieu de toute sa pensée. On est dans un vernis religieux. Ben, souvenez-vous, comme les pharisiens qui priaient, qui jeûnaient, qui lisaient la Torah et qui en même temps ont voté pour crucifier leur Messie. Une foi véritable, une relation authentique avec Dieu provoque un joyeux émerveillement devant Dieu. Lorsque quelqu'un vit une double vie, discutez avec la personne, vous verrez. Lorsque la personne est en désaccord avec Dieu, la personne peut vous parler de Dieu, La personne peut vous dire qu'elle prie, qu'elle lit sa Bible tous les jours, mais quand vous discutez un petit peu, voyez qu'il n'y a pas chez cette personne cette conscience comme lavée, cette conscience comme détendue. Il n'y a pas cet émerveillement devant la personne de Dieu. Il n'y a pas cet émerveillement, cette paix et cette joie et ce repos par rapport à l'œuvre de Christ à Golgotha. Mais au contraire, il y a un poids sur l'âme. Il y a comme une lourdeur, une pesanteur, une culpabilité persistante. La solution consiste toujours à s'occuper des quatre premiers commandements. Vous suivez ? La solution consiste toujours à travailler une vraie relation avec Dieu, à grandir dans la connaissance de la personne de Dieu, ce qui provoquera alors une vraie repentance et une foi authentique. Alléluia. Alors, le quatrième des 10 commandements consiste à prendre un temps que l'Ancien Testament appelait sabbatique, un temps pour Dieu. Prendre un temps sabbatique, un temps de repos avec Dieu. Vous remarquerez que la notion avec Dieu va avec la notion de repos en Dieu. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, le fait d'avoir une relation avec le Messie, c'est appelé le repos. Littéralement, un repos de repos, un sabbat de sabbat. Le fait d'être en Dieu provoque un repos, une détente de l'âme. Voilà. OK. Prendre un temps avec Dieu, bien sûr, cela implique prendre du temps avec Dieu individuellement, mais aussi collectivement avec le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le sabbat était un moment pour prendre du temps avec Dieu personnellement, pour prendre du temps en famille, pour prendre du temps en famille avec Dieu et pour prendre du temps avec le peuple de Dieu. OK ? Voilà. Aujourd'hui, on a des emplois du temps qui font que le dimanche, vous pouvez tout faire, sauf vous occuper de Dieu. Hein. Profitez-en pour faire vos courses le dimanche, pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Vous avez des tas de choses à faire. Il reste quoi pourtant comme temps avec Dieu, hein. Voilà. Vous êtes ici, donc vous avez compris. C'est bien. Hein. C'est important d'entretenir dans ma vie de la louange et de l'adoration collective et d'entretenir envers le peuple de Dieu des notions de service, d'encouragement, d'entraide, de soutien, d'amour fraternel avec le peuple de Dieu. Je vous ai mis ce verset, exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre. Ça sous-entend une vie communautaire. OK, on continue. Voilà. Je vous ai mis, deuxièmement, une loi ou une relation avec Dieu. Alors, on va lire quand même un peu ce qui se passe. C'est donc juste après les 10 commandements. Il est dit, et tout le peuple, on est au mont Sinaï, hein, bien sûr, et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela, et ils tremblèrent et se tinrent loin. Et ils dirent à Moïse, « Toi, parle avec nous, et nous écouterons, les menteurs. Mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous mourions. » Ben non, Dieu ne les a pas fait sortir d'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert. C'était ce qu'ils pensaient. Bon, voilà. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. » Et le peuple se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Moïse n'a pas peur, il connaît Dieu, il rentre dans la présence de Dieu, il sait très bien que Dieu ne les a pas fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, pour les faire mourir dans le désert. Le peuple croyait cela, n'est-ce pas ? Ils avaient des idées fausses sur Dieu. Hein ? Et la Bible nous dit que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un Dieu parle avec son ami. Les Hébreux de l'époque, je vous ai mis cela, oui, ils ont un côté religieux. Mais ils ne cherchent pas une communion. Ils ne cherchent pas une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. Ils ont un côté religieux. Voilà. Ils craignent Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. En fait, ils subissent le fait que Dieu est là. Ils subissent le fait que Dieu existe, mais ils n'aiment absolument pas Dieu. Et ils demandent à Moïse de parler avec Dieu pour eux et d'avoir une relation avec Dieu à leur place. Et ensuite, ils disent qu'ils mettront la parole de Dieu en pratique. Ils répètent, nous écouterons et nous le ferons. En fait, ils mentent, mais ils mentent vraiment. Hein, car ils ne vont pas mettre la parole de Dieu en pratique, mais rapidement, on le sait, ils vont plonger dans l'idolâtrie, ils vont faire un veau d'or, en même temps, ils vont plonger dans la fornication, dans la débauche, dans l'adultère et dans les orgies. Hein, voilà. Lisez le livre de l'Exode. Mais ils ne vont jamais mettre la parole de Dieu en pratique. Hein. Alors, en fait, les Hébreux, lorsqu'ils disent ça à Moïse, c'est la deuxième fois qu'ils disent ça à Moïse. En fait, ils vont dire cela à Moïse 4 fois. Ils vont dire cela à Moïse 4 fois. Nous écouterons et nous le ferons. 4 fois, ils vont dire ça à Moïse. Parce que, en fait, Dieu ne voulait pas leur donner la loi. Ce n'est pas le but de parler de ça ce matin. Ça nous ferait prendre trop de temps. Mais Dieu ne voulait pas leur donner la loi. Et Moïse ne voulait pas leur donner la loi. Et c'est le peuple qui a réclamé la loi. Et ils ont dit à Moïse, si, demande à Dieu une loi, et puis ensuite tu écouteras, tu noteras la loi, et puis ensuite tout ce qu'il y aura dans la loi, nous le ferons. Et à 6 reprises, souvenez-vous, 6, le chiffre de l'humain, à 6 reprises, cela est raconté dans la Torah. J'ai vérifié moi-même, hein. Je ne tire pas mon message de l'IA, j'ai vérifié moi-même. Voilà, à 6 reprises, c'est noté dans la Torah. En tous les cas, ils ne vont jamais tenir parole. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le peuvent même pas. Ils ne le peuvent même pas. D'ailleurs, Dieu dit à Moïse, ils ne vont pas pouvoir. Ils ne vont pas pouvoir. Et quand Dieu donne les 10 commandements, juste après avoir donné les 10 commandements, il va faire une chose, Dieu. On verra laquelle tout à l'heure. Hein. Bon, à part quelques-uns comme Josué, Caleb, Myriam, un peu Aaron, ils ne cherchent pas de relation avec Dieu, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Regardez les Hébreux, ils ne sont pas émerveillés par Dieu. Et quand ils voient Dieu faire de grands miracles, tout ça, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont effrayés. Mais ils n'ont pas compris le cœur de Dieu. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils demandent à Moïse de jouer le rôle d'un intermédiaire, d'un médiateur. C'est-à-dire, c'est le rôle que joue, par exemple, un prêtre, un imam, un moine bouddhiste dans d'autres religions, quoi. Hein. Voilà. Hein. Le rôle d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, de groupe de maison, par exemple, c'est de te conduire vers Dieu pour que tu entretiennes ensuite toi-même une relation personnelle avec Dieu et que tu vives toi-même dans un émerveillement devant Dieu. D'accord ? C'est ça qui est important. Alléluia. Ces Hébreux n'apprennent pas à connaître Dieu, ils n'apprennent pas à être émerveillés par lui et n'ont même pas de crainte respectueuse envers Dieu. En fait, ils ont une crainte religieuse devant Dieu. En fait, quand vous lisez la Bible, ils ont une peur panique loin d'une vraie connaissance de Dieu. Ils, comme je vous l'ai dit, ils soupçonnent Dieu de leur faire tout un tas de mots, des idées complètement fausses sur Dieu. Et pourtant, Moïse leur explique que Dieu est en train de les former, de les édifier, de les éprouver afin qu'ils ne pêchent pas. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est en grandissant dans la connaissance de Dieu que nous prenons des forces face au péché et à la tentation. Je vous ai mis ce verset que nous connaissons bien. Nos groupes de maison ont appris ce passage par cœur. Le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce qui est en Christ. Alléluia. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en grandissant dans la connaissance de Dieu, en grandissant dans la connaissance des 4 premiers commandements, qu'on peut avoir la victoire sur les commandements suivants. OK. Ensuite, on va lire la suite. Donc, comme je vous disais, Dieu donne les 10 commandements. Et Dieu ne se fait aucune illusion. Il sait très bien que de toute façon, les gens ne respecteront pas les 10 commandements. Ils ne respecteront pas les 4 premiers et pas les 6 suivants. Donc, automatiquement, ils tombent sous le jugement. Alors, tout de suite après avoir donné les 10 commandements, Dieu va dire à Moïse, tu construis un autel pour offrir des holocaustes, des sacrifices pour le péché, en sorte que prophétiquement, on symbolise, on offre des sacrifices symbolisant le Christ. D'accord ? OK. On va lire cela quand même. L'Éternel dit à Moïse,
Tu diras ainsi aux fils d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous des cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas de dieu d'or. Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alors là, Dieu est très clair. Il dit, mais je vais venir à toi, je vais vivre avec toi et je te bénirai. Et il dit ceci, si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée, car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, c'est-à-dire par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Lorsque Dieu donne les 10 commandements, il sait très bien, comme je vous le disais, que personne ne va les respecter, que personne même ne peut les respecter. Les 10 commandements, en fait, sont là, lisez l'épître aux Gaulois, l'épître aux Galates, hein. Les 10 commandements nous montrent notre incapacité à vivre correctement, notre nature pécheresse. Les 10 commandements sont donnés pour nous montrer notre besoin d'être pardonné et pour nous pousser vers la grâce, pour nous pousser vers le Sauveur, pour nous pousser vers le Christ. Les 10 commandements, jamais Dieu n'espère qu'on va les suivre. Mais les 10 commandements sont là pour nous pousser vers la grâce qui est en Christ. Et quand nous sommes en Christ, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, l'Esprit de vie prend le relais, donne une vie nouvelle qui fait que, oh, étonnement, je pratique les 10 commandements à cause du Saint-Esprit qui coule en moi. Alléluia. Tout ça, c'est un résumé donc de l'Évangile. OK. Dès que Dieu donne les 10 commandements, donc contrairement à ce que pense le peuple, eh bien, Dieu demande à Moïse de bâtir un autel où on va offrir des sacrifices pour le pardon des péchés, donc des sacrifices qui symbolisent, qui prophétisent le Christ qui allait venir. Dieu sait très bien que nous transgresserons la loi et la volonté de Dieu et que nous aurons besoin de pardon et besoin de grâce. Il demande donc tout de suite à Moïse de faire un autel. Nous avons besoin de l'œuvre de la croix. Nous avons besoin de la grâce qui s'est passée à Golgotha. Nous avons besoin de la plénitude de l'œuvre de Christ à la croix pour recevoir un plein pardon et pour avoir la victoire sur le péché. Alors, et là, j'aimerais dire quelque chose. Souvent, nous avons une tendance, je dirais dramatique, à minimiser l'œuvre de la croix. Lorsque je vois quelqu'un qui a des difficultés par rapport à des tendances, à des péchés, à quelque chose qui ne va pas, comme je vous dis, d'abord, je m'intéresse à comment la personne comprend Dieu. Quel genre de relation la personne a avec Dieu? Est-ce que la personne est émerveillée par Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce que la personne comprend de l'œuvre de la croix? Quelqu'un qui a des difficultés par rapport à certains péchés, à certaines accoutumances, il y a toujours une tendance dramatique à minimiser l'œuvre de la croix, à réduire l'œuvre de la croix, à oublier de nombreux aspects bienfaisants de l'œuvre de Christ à la croix. Je vous donne quelques exemples. Lorsque je me sens attristé à l'excès, lorsque je me sens culpabilisé, j'allais dire à outrance, lorsque j'ai sans cesse peur des esprits ou des démons, ou que je vois le diable partout. Le diable n'est pas partout parce qu'il n'est pas omniprésent, mais quand même, il est presque partout quand même. Et alors, il a été vaincu. Lorsque j'ai peur des démons, lorsque je me sens sans cesse humilié, écrasé, rejeté, ben, si tu me rejettes, c'est ton problème. Si tu me rejettes, c'est ton problème. Dieu ne m'a pas rejeté. Il a donné sa vie pour moi. Il m'accepte pleinement. Ça me suffit largement, bien sûr. Hein. Lorsque je me sens négligé, incompris, lorsque je suis sans cesse inquiet, insécurisé, lorsque j'ai toujours besoin de me justifier, besoin de faire mes preuves. Alors, bien sûr, c'est peut-être le signe aussi d'un manque évident de repentance. Il y a peut-être un gros camion dans mon garage. Voilà. Mais souvent, c'est tout simplement la marque que nous minimisons ce qui s'est passé à Golgotha. Nous minimisons l'œuvre extraordinaire de Christ à la croix. Nous réduisons l'œuvre pleine et entière de Christ à la croix.
dirais même parfois nous méprisons, nous oublions parfois la grande vérité de la plénitude du pardon et de la plénitude de l'acceptation en Christ. Si j'ai une tendance à minimiser l'œuvre de Christ à la croix, je vais avoir une autre tendance automatiquement. C'est minimiser l'œuvre de l'esprit de vie qui habite en moi et qui coule pour faire couler le fruit de l'esprit et qui donc remporte la victoire sur le péché. Les deux vont ensemble. Si je minimise l'œuvre de la croix, je minimise également l'œuvre du Saint-Esprit en moi et à travers moi. Ça va ensemble. Car cet esprit de vie qui habite en moi, c'est lui qui me donne la victoire sur le péché. Je vous ai remis des passages bibliques que l'on connaît bien ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Là, ce n'est pas condamnation par rapport au péché, c'est la condamnation de toujours retomber dans les mêmes péchés. Voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché. La loi de l'esprit de vie qui habite en moi m'a affranchi de la loi du péché. Alléluia. Ouais, je vous ai mis Romains 8, 11, où il est dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. » Là, il n'est pas question de la résurrection à la fin des temps. Il est question de vivifier mon être alors que je suis sur cette terre. Et si je crois pleinement à l'œuvre de Christ à Golgotha, eh bien, je sais que le Saint-Esprit habite en moi et cet esprit de vie qui a ressuscité Jésus va vivifier mon corps mortel et mon âme. L'apôtre Paul pouvait aussi proclamer glorieusement, on l'a dit tout à l'heure, « Le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce qui est en Christ. » N'est-ce pas ? Et dans l'Épître aux Philippiens, dans nos groupes de maison, on a appris par cœur ces passages. Paul pouvait exhorter fortement. Ben alors, si vous en êtes là, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je le dirai, réjouissez-vous. Et Paul continuait, je puis toute chose en celui qui me fortifie. Quel beau verset biblique. Mais si je puis toute chose en celui qui me fortifie, c'est parce que j'étais complètement lavé, complètement nettoyé et complètement accepté grâce au sang de Christ. Voilà. Donc, après avoir donné les 10 commandements, Dieu sait que nous aurons besoin de grâce et de pardon. Et il va donc demander de construire un autel ou des autels qui vont symboliser l'œuvre de Christ à la croix. Donc, un autel de terre, ou alors il demandait de faire un autel de pierre, mais pas de pierre que l'on taillait, hein, mais un autel de pierre brute. Voilà. Des constructions comme la terre, des pierres brutes, à l'aide d'éléments naturels, pas des choses transformées par l'homme. Or là, je dis un petit truc, quand vous avez des autels sur le tabernacle de Moïse ou des autels dans le temple de Salomon, il y a une autre symbolique qui est là. Donc, ce n'est pas des autels construits comme ça, c'est des autres formes d'autels avec une autre symbolique. D'accord ? Autrement, les autres autels, que ce soit Abraham, Noé, etc., etc., les autels que Dieu demandait, c'était des autels qui avaient des particularités. Par exemple, cet autel avec Moïse fonctionnait sans marche d'escalier, sans escalier. L'idée, c'était qu'on ne pouvait pas grimper vers Dieu. C'était la grâce qui descendait jusque nous. On descendait, on montait pas vers Dieu. C'était Dieu qui descendait. C'est l'idée du Messie qui descendait. Et puis en même temps, vous savez, à cette époque-là, les gens n'étaient pas en pantalon, mais ils étaient en robe. Tout le monde était en robe. Et quand ils montaient des marches d'escalier, la robe se soulevait un peu. Et donc, on pouvait voir éventuellement les chevilles, le mollet de quelqu'un. Et Dieu voulait pas ça. Bien sûr, c'était symbolique, hein, bien sûr. Mais Dieu ne voulait pas ça parce qu'il ne voulait pas que lorsque on s'intéressait à un autel pour faire des sacrifices par rapport au péché, que l'on voit la chair. Parce qu'il n'y avait rien de charnel dans la grâce. La grâce, le pardon, la réconciliation, je reçois tout ça directement de Dieu. La grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu, le sacrifice, je vous ai mis l'œuvre de Christ à la croix, elle est extraordinaire, elle est pleine et entière et elle est suffisante. Il n'y a absolument pas besoin, elle n'a pas besoin d'être améliorée, etc. Et puis en même temps, donc je vous l'ai mis là, si l'autel était fait de pierre, il ne fallait pas des pierres taillées. Mais il ne fallait pas des pierres façonnées par l'homme, améliorées par l'homme, mais des pierres entières, des pierres brutes. Ça montrait que l'œuvre de la croix, l'être humain ne pouvait pas l'améliorer. Par des prières, de longues prières, par des jeûnes, par des rituels, je vous ai mis par des superstitions évangéliques ou évangélico-chrétiennes, comme des signes de croix, des prières récitées, des crucifix, des pèlerinages, de l'eau soi-disant bénite, etc., etc. L'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre de Christ à la croix est pleinement suffisante. Tu ne peux pas l'améliorer. Tu crois à ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est plein et suffisant. Alléluia. Hein? Les efforts humains, l'habilité humaine, la religiosité humaine, le vernis religieux, les traditions, la liturgie humaine ne peuvent pas améliorer la grâce ou la réconciliation qui est donnée par l'œuvre de Christ à la croix. Jésus disait bien aux pharisiens de son temps, ces gens qui priaient tant et qui jeûnaient, etc., et ce qu'ils disaient dans la Bible, il disait, mais vous avez des habitudes, en fait, et vous annulez la parole de Dieu par vos habitudes et par vos traditions. Revenez à la parole de Dieu, revenez à ce que Dieu va faire. Alléluia. Bon, nous sommes sous l'Ancien Testament, et ces autels servaient symboliquement et prophétiquement, annonçant à l'avance l'œuvre extraordinaire de Christ à Golgotha. Alors, sur ces autels, je vous ai mis, par exemple, on faisait des holocaustes, c'était quoi? C'était des animaux comme des taureaux, des chèvres, des moutons, que l'on sacrifiait, préfigurant le Christ, Christ qui était une victime sans défaut et sans tache, qui s'offrait en odeur agréable à Dieu pour l'expiation des péchés. Et puis, il y avait sur ces autels aussi ce qu'on appelait des sacrifices de prospérité, qu'on appelle aussi parfois dans la Bible des sacrifices d'action de grâce, de louange, littéralement dans l'hébreu, des offrandes de paix. Et ces sacrifices de prospérité préfiguraient toute l'œuvre et toute la personne de Christ qui apporte la paix et la joie aux croyants. D'ailleurs, ces sacrifices de prospérité exprimaient la réalité d'une communion avec Dieu et la joie d'être en Dieu. Dans le livre de Deutéronome, par exemple, Dieu demande qu'on offre ces sacrifices de prospérité en se réjouissant. Intéressant, ça. Hein? C'est-à-dire que je peux être profondément touché, profondément affligé, lorsque je pense aux souffrances de Jésus à la croix. Ça, c'est vrai. C'est tellement énorme ce qui s'est passé à Golgotha. Ce qui s'est passé à Golgotha, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hein? Mais en même temps, je peux m'en réjouir parce que c'est un amour tellement immense qui m'est donné sans que je l'ai gagné, sans que je le mérite, bien sûr. Hein? Voilà. Dans ces sacrifices de prospérité, il y avait du sang, bien sûr, et puis des graisses et que l'on faisait brûler. Le sang, c'est la base de notre relation avec Dieu, et les graisses, ça symbolisait la vie intérieure de Christ. Et tout ça, c'était brûlé, ça partait en fumée. C'est-à-dire, c'était réservé pour Dieu. D'accord? Et puis, on faisait aussi brûler, donc, vous voyez, je vous ai mis quelqu'un là qui fait un sacrifice de prospérité. Voilà. On faisait brûler la poitrine de l'animal, c'est le siège des affections, du cœur, de l'amour. Et puis l'épaule droite, c'est le symbole de force et de puissance. Alors ça, c'était les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu de l'époque qui mangeaient ça. Ça voulait dire que les serviteurs de Dieu de l'époque se nourrissaient de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu. D'accord? Et puis tout le reste, c'était le monsieur qui offrait le sacrifice, qui le mangeait, l'adorateur, qui le mangeait et qui le mangeait tout seul. Ou généralement, Dieu le demandait, il le mangeait avec sa famille ou il le mangeait avec ses amis, avec ses invités. En fait, ça symbolise la scène, tout simplement. La scène qu'on prendra d'ailleurs tout à l'heure. Ce sacrifice, en plus, ce sacrifice était mangé le jour même. On ne le laisse pas moisir ou sécher ou pourrir ou être mangé par les moustiques. Je me souviens, quand j'allais au marché, quand j'habitais au Cameroun, marché où j'allais, il y avait d'énormes paquets de viande, de bœufs, de zébus. Alors, bien sûr, on prenait de la viande, mais pour prendre la viande, avant, pour voir quel genre de viande c'était, il fallait bien passer la main. Pourquoi ? Pour enlever tous les moustiques. Hein, voilà, puis après, on faisait bien cuire quand on rentrait à la maison. Quoi, hein. Voilà, et puis c'était bon. Voilà, OK. Mais là, le sacrifice était mangé le jour même. On ne le laissait pas moisir ou pourrir ou sécher. C'est comme la manne, vous savez, qui devait être mangée le jour même. De même, notre relation avec Dieu, notre émerveillement devant la personne de Dieu et devant l'œuvre de Christ à la croix, ont besoin de fraîcheur et d'être rafraîchis tous les jours, d'être renouvelés chaque jour, sous peine de moisir, de pourrir, de sécher, de sentir mauvais, de puer la religiosité et de mourir. J'ai besoin d'entretenir mon émerveillement devant la personne de Dieu. Ça s'entretient, ça, n'est-ce pas ? Ce sacrifice de prospérité était mangé, était dévoré dans la louange, l'adoration, les remerciements, et cela avec joie, avec la famille, avec des amis, avec des invités, dans l'amour et la communion fraternelle. Comme je vous l'ai dit, ça symbolisait la scène. Ce sacrifice symbolisait également la nécessité et la richesse de la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. OK. Allez, conclusion. Souvent, on me demande, on me l'a demandé encore dans un groupe de maison il n'y a pas longtemps, comment est-ce que l'on sait que l'on est dans une relation avec Dieu ? Ben oui. Comment est-ce que l'on sait que je ne suis pas dans un vernis religieux ? Comment est-ce que l'on sait que simplement je ne fais pas qu'adhérer intellectuellement au fait que, oui, je pense que Dieu existe. Je pense qu'il y a 2000 ans, il y a un juif qui s'est fait planter sur un morceau de bois du côté de Jérusalem. Voilà, d'accord. Mais ça ne sauve personne. Ça ne sauve personne, ça. C'est adhérer intellectuellement. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la vraie foi. Hein? Alors, comment est-ce que je sais que je suis dans une vraie relation avec Dieu ? On comprend que l'on a une vraie relation avec Dieu lorsque on est vraiment émerveillé, époustouflé par la grâce et l'amour de Dieu. Alors, on est loin d'une culpabilité obsédante ou écrasante. Hein. Quand quelqu'un est sous une vraie culpabilité, alors soit qu'il a besoin d'une repentance, et que la repentance, elle ne se fait pas. Mais la repentance ne suffit pas. Judas, il a compris qu'il avait mal fait. Après, il faut venir à Dieu pour comprendre l'amour de Dieu et comprendre ce qui s'est passé à la croix. Donc, je sais que je suis dans une vraie relation avec Dieu lorsque je suis émerveillé, époustouflé par la personne de Dieu et par la grâce et l'amour du Christ et par ce qui s'est passé à Golgotha. Je vous ai mis ce passage biblique qu'on connaît bien ici. Tu me fais connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Ce passage est prêché par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. On sait que l'on est dans une bonne relation avec Dieu lorsque nous sommes dans une paix intérieure. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes en paix, nous sommes dans un vrai repos, dans une vraie détente, dans une relation vivante et joyeuse. S'il n'y a pas ça, soit que la personne ne croit pas, soit que la personne a des incompréhensions très profondes sur la personne de Dieu, sur le caractère de Dieu, sur le style de Dieu, les façons de faire de Dieu, ou sur ce qui s'est passé à Golgotha. Discutez, par exemple, avec quelqu'un qui peut vous expliquer l'Évangile en long, en large et en travers, mais qui a toujours peur des esprits, peur des démons, qui voit le diable partout. Discutez avec la personne. Vous voyez, ce qui est fondamental, il y a une incompréhension sur l'œuvre de la croix. sur ce que Dieu a vraiment fait à Golgotha. Une incompréhension absolue. Alléluia.
OK. On sait donc qu'on est dans une bonne relation avec Dieu lorsque nous sommes dans une détente, dans une relation vivante et joyeuse avec Dieu. La relation, écoutez bien, parce que ça peut être un bon signe, une bonne marque de repère. La relation avec Dieu ne nous épuise pas. Au contraire, elle nous rafraîchit. Elle nous vivifie. Je dirais même, elle nous étonne. Elle détonne. Elle nous plonge dans la joie, la louange, l'adoration et l'allégresse. Elle nous immerge dans un magnifique émerveillement devant la personne de Dieu. Je vais même aller plus loin dans le travail pastoral. Lorsque quelqu'un n'est pas émerveillé par Dieu, enthousiasmé par ce qui s'est passé à Golgotha, émerveillé par la personne de Dieu, tout de suite dans ma tête, j'ai « Qu'est-ce que tu me caches, toi ?» Soit des incompréhensions sur Dieu, tu as ton vernis religieux et il y a des choses que tu ne comprends pas, ou alors, il y a vraiment des vrais péchés, des gros camions que tu stockes dans le garage et que tu caches à tout le monde. Parce qu'une façon naturelle dans la vie avec Dieu, il y a un émerveillement devant un Dieu époustouflant et étonnant. La foi en Jésus, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. OK. Lorsque nous méditons sur les excellences de la personne de Dieu, sur les excellences et les qualités et les capacités infinies et magnifiques de Dieu, nous grandissons dans la connaissance de sa personne. Nous grandissons dans la connaissance de Christ et nous grandissons dans l'appréciation de son œuvre époustouflante à Golgotha. Nous vivons alors, nous, joyeusement, dans un émerveillement devant la personne du Dieu trinitaire. Souvenez-vous, Yahvé, Eloéka, l'Éternel, tes dieux. Et pris dans cet émerveillement, nous permettons alors à l'esprit de vie de couler en nous et de couler à travers nous pour faire couler le fruit de l'esprit et pour vaincre le péché, nous dit la Bible, qui nous enveloppe si facilement et pour nous donner la victoire sur le péché. En Christ, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création, selon les traductions. 2 Corinthiens 5, 17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Alors surtout, surtout, ne minimisez pas, n'atténuez pas ce verset. Ne minimisez pas ce verset. Il est vrai et il est réel. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Et si ça ne fonctionne pas, souviens-toi, les 4 premiers commandements, qu'est-ce qu'il y a qui cloche ? Quelle compréhension tu as sur la personne de Dieu. Alléluia. Et je termine donc avec ce dernier passage biblique qui va avec ce que nous avons partagé, Hébreux 9. C'est comme si celui qui écrit l'Épître aux Hébreux était émerveillé par l'œuvre du Messie. Il a dit, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ? Les œuvres mortes, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément faire le mal. C'est plus que ça, c'est faire très mal. Je vous explique. Ce sont des attitudes charnelles, des habitudes religieuses, des efforts religieux, des traditions obsédantes pour essayer de purifier sa conscience, de voiler sa conscience et pour essayer de mériter, de gagner la grâce de Dieu. Mais toute ma vie, tout mon caractère, toutes mes attitudes vont dépendre de ce que je crois au sujet de la personne de Dieu et de la connaissance que j'ai de la personne de Dieu et de la connaissance que j'ai de cette œuvre dingue qui s'est passée à Golgotha. Et je vous ai mis cette réflexion, et c'est cet émerveillement devant l'excellence de la personne de Dieu et de son œuvre à Golgotha qui produira la victoire sur le péché et qui produira une vie lumineuse et victorieuse
accomplissant bien plus que les 10 commandements, car vivant une relation réelle et joyeuse avec Dieu. Les 10 commandements n'avaient qu'un objectif, nous pousser vers un sauveur et nous pousser dans l'émerveillement devant un Dieu excellent et exceptionnel. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez à tout ça durant vos vacances. Que Dieu vous bénisse.